Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous ferons le point sur la puberté précoce. Depuis quelques années, les pédiatres et les endocrinologues tirent la sonnette d'alarme. Ils voient de plus en plus souvent des fillettes ou des petits garçons de 7 ou 8 ans, même parfois plus jeunes, avec des signes de puberté. Alors comment expliquer ce phénomène? Quels sont les symptômes chez un enfant qui doit pousser les parents à consulter? Et que peut-on leur proposer en termes de prise en charge? Pour nous éclairer sur tout cela, notre invité, ce sera le docteur Isabelle Fleischer. Elle est pédiatre endocrinologue à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous ferons un zoom cet après-midi sur le lichen plan. Connaissez-vous cette pathologie qui touche la peau? À quoi ressemblent justement les lésions cutanées? Comment ça se traite? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique psycho de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera du rapport à l'argent et à la gestion des finances quand elles sont diamétralement opposées. Cela peut entraîner de vrais soucis dans les couples.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Samia, qui a 34 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une question à vous poser. Moi, avec le confinement, j'ai pris une fâcheuse habitude de prendre mes repas en tailleur sur mon lit. Je voulais savoir si c'était conseillé, si ça a un impact sur ma digestion. Merci, bonne émission.
Alors pour vous répondre, Samia, on a posé votre question au docteur Laurence Plumet. Elle est nutritionniste à Paris.
Manger au lit, ça a un impact sur plusieurs choses, mais pas sur la digestion. Pour l'estomac, ça ne change rien, que l'on soit assise dans son lit ou qu'on soit assis à une table. En revanche, il y a quand même de sérieux inconvénients pour autre chose. Premièrement, pour le dos. Parce que quand on est assis sur une chaise, le dos est tenu bien droit par un dossier rigide. Ce qui n'est pas le cas dans un lit en général. On met des coussins, des oreillers. C'est pas du tout une bonne position. Deuxièmement, ça fait des miettes. Et les miettes, c'est pas très agréable dans un lit. Parce que ça gratte la nuit, ça ne prédispose pas à un bon sommeil. Mais surtout, c'est qu'un lit, c'est fait pour dormir. Et quand on habitue son cerveau inconsciemment à associer un lit à plein d'autres activités, à travailler, à manger et tout, ben finalement, ça lui fait oublier que le lit, c'est déjà pour dormir. Ce qui fait que ça peut contrarier la qualité du sommeil quand on s'habitue à faire autre chose que de dormir dans son lit.
Voilà, c'était donc le docteur Plumet au micro de Benjamin Lévesque. Le docteur Plumet qui est également fondatrice de l'EPM, l'école de napsothérapie. À présent, Jimmy, on va prendre une autre question d'auditeur pour vous. C'est Brigitte, elle a 63 ans. On l'écoute.
Moi, j'ai 63 ans. J'ai pas de comorbidité. Je voudrais vraiment me vacciner parce que je commence à avoir très très peur, surtout en relation avec ce nouveau variant anglais et sud-africain qui est en France. Donc, je voudrais me vacciner. Je ne sais pas où me faire vacciner. Je crois que Jimmy Mohamed est partisan de la vaccination de masse. Alors, quand on a 63 ans, qu'on n'est pas en EHPAD, qu'on n'a pas plus de 75 ans, on fait comment ?
Bon Jimmy, on a compris, Brigitte veut vraiment se faire vacciner. Elle n'est pas la seule, mais je crois que finalement, à 63 ans, elle va devoir attendre un peu, malheureusement, qui a droit, droit au vaccin, finalement.
Et Brigitte, elle a raison de vouloir se faire vacciner. C'est la sortie de crise, c'est quelque chose d'historique. J'ai hâte de pouvoir me faire vacciner. Je ne fais pas partie encore des populations qui peuvent le faire. Alors, pour l'instant, l'objectif, c'est de vacciner 1 million de personnes d'ici la fin du mois de janvier. À partir d'aujourd'hui, les personnes qui ont plus de 75 ans qui ne résident pas en EHPAD et qui sont à domicile, peuvent essayer de prendre un rendez-vous en ligne, le site est un peu saturé, pour essayer de se faire vacciner à partir du 18 janvier. Car pour l'instant, on a fait plutôt les personnes en EHPAD et les soignants à risque qui ont plus de 50 ans, donc il va falloir attendre encore un petit peu pour Brigitte.
Bon, on va pas se mentir, Jimmy, vous en avez déjà parlé sur Europe 1. C'est dommage qu'en France, on n'aille pas plus vite, je sais que vous le regrettez. C'est quoi le problème par rapport à nos voisins? Pourquoi eux, ils vont plus vite que nous?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vaccination actuelle ne permettra pas d'éviter cette troisième vague. Il faut être clair et net, c'est pas comme ça qu'on va améliorer les choses. Les mesures qui vont être annoncées à 18h sont nécessaires. Il est nécessaire de mettre des mesures de restriction supplémentaires. En ce qui concerne la vaccination, on a vacciné 250 000 personnes. Ce soir, on aura les nouveaux chiffres. Ça fait 50 000 personnes de plus en 24 heures, mais des voisins européens font mieux. Donc, il faut qu'on accélère, mais malheureusement, on n'a pas encore les vaccins nécessaires. Le Danemark a été beaucoup plus rapide que nous. Pour autant, ils ont épuisé leur stock de vaccins. Ça veut donc dire qu'au bout d'un moment, on a le facteur limitant. Donc, il nous faut plus de vaccins. Et donc, malheureusement, un peu de patience et encore des gestes barrières.
Parce qu'en revanche, on est d'accord, il n'existe pas une raison scientifique ou médicale qui dit qu'il faut aller lentement, déployer ça tranquillement.
Non, là, c'est une course contre la montre. Il faut aller le plus vite possible. Et donc, pour répondre à la question de Brigitte, il y aura un deuxième temps où elle pourra se faire peut-être vacciner. C'est la période de fin février jusqu'à mars. Il faudra avoir entre 65 et 74 ans. Elle a 63 ans, elle va falloir attendre la troisième vague, celle du printemps, où on va commencer par ordre de priorité.
Troisième vague de vaccination.
De vacciner les personnes qui ont entre 50 et 64 ans, puis l'ensemble de la population. Et puis, il y a encore un angle mort, les personnes qui ont moins de 50 ans, mais qui ont des facteurs de risque de faire des Covid graves, avec de l'insuffisance cardiaque, des maladies graves. C'est 2 millions de personnes en France et elles vont devoir attendre cette troisième vague de vaccination.
C'est
donc il y a des inégalités.
Là, on va pouvoir accélérer pour eux,
ce qui est positif, le ministre avait dit que nous allons avoir d'ici le printemps, début d'été, 100 millions de doses de vaccins au travers de différents laboratoires. Donc, nous allons y arriver et au bout d'un moment, on va sortir de cette crise. Un peu de patience et un peu d'endurance et bon courage à tous, évidemment, dans cette période.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Brigitte, qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 3921, surtout n'hésitez pas, c'est ce pas sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Et nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invitée, c'est vous, docteur Isabelle Flechner. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre endocrinologue à Paris et nous allons faire avec vous un point sur la puberté précoce. Comme son nom l'indique, c'est une puberté qui arrive trop tôt. Alors juste pour rappel, pour démarrer, quand tout va bien d'ailleurs, la puberté finalement, c'est à quel âge en moyenne chez les garçons et chez les filles ?
Alors le premier signe de puberté chez les filles, c'est considéré complètement normal à partir de 9 ans et chez les garçons, complètement normal à partir de 11 ans. Après, on considère que c'est vraiment précoce quand les premiers signes apparaissent chez les filles avant 8 ans et chez les garçons avant 9 ans. Mmh. Entre 8 et 9 chez les filles et entre 9 et 11 chez les garçons, on considère que ce sont des pubertés avancées, c'est-à-dire un petit peu tôt, mais pas des vraies précoces.
Et justement, alors comment est-ce qu'on se rend compte qu'un enfant, un garçon ou une fille, a une puberté précoce ? Ils n'ont peut-être pas tous les symptômes qu'on peut attendre d'une puberté classique ?
Alors, le vrai signe de puberté chez les filles, c'est quand les seins se mettent à pousser. Les poils, les petits boutons d'acné, la transpiration qui sont plus forts, ce n'est pas la vraie puberté. La seule vraie puberté, c'est quand les ovaires se mettent en route. Et ça, ça fait une petite boule au niveau des seins, comme une petite olive qu'on peut sentir quand on passe la main. Souvent, ça fait un petit peu mal, d'ailleurs, au début. Et il faut bien passer la main, parce que parfois, si l'enfant a un peu de surpoids, on a l'impression qu'il y a un petit peu de sein, mais ce n'est pas obligatoirement du vrai sein. Donc, c'est en palpant qu'on sent s'il y a une petite boule plus dure au milieu qui permet de savoir si la glande de ma mère commence à se former. Alors, chez le garçon, c'est plus difficile de voir de l'extérieur parce que c'est l'augmentation de la taille des testicules qui compte. C'est pas les poils non plus. On peut avoir une vraie puberté précoce sans poils du tout. Et donc ça, c'est toujours plus difficile à voir, surtout que c'est des âges où on les voit moins, parfois autour de 9 ans. Et eux-mêmes ne se rendent pas toujours compte tout de suite. Et donc, on a souvent du retard dans le diagnostic chez les garçons.
D'accord. Et donc, chez les filles, c'est pas, par exemple, les règles qui débarquent à 6 ans, hein, c'est pas ça ?
Alors les règles en moyenne, ça apparaît 2 ans, 2 ans et demi après le début des seins. Donc c'est exceptionnel d'avoir les règles comme premier symptôme de puberté.
Et justement, peut-être rassurer les auditeurs, parce que des nouveau-nés, les petites filles peuvent avoir aussi des petites règles qui se font peur souvent aux parents, mais ce n'est pas une puberté précoce.
Pas du tout. Les petites règles qui apparaissent les premiers jours, c'est secondaire au fait que la petite fille est sevrée des hormones de la maman. Et que du coup, les hormones de la maman ont pu avoir un effet un petit peu sur l'utérus de la petite fille pendant la vie fœtale. Et que comme quand elle est née, elle n'a plus les hormones de la maman, eh bien, il y a des petites règles, mais ça, c'est physiologique, c'est normal.
D'accord. Alors, je me souviens, il y a quelques années, plus précisément, c'était en 2014, avec deux associations de pédiatres, vous aviez alerté sur l'augmentation des cas de puberté précoce. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que ça augmente toujours ? On voit beaucoup plus dans vos cabinets, par exemple, de petites filles avec des seins, je ne sais pas, à 6 ans ?
Alors, on en voit de plus en plus, effectivement. Alors, de plus en plus, depuis quelques années, c'est difficile de savoir parce qu'en fait, on n'a pas de registre ni de chiffre exact. Il n'y a pas beaucoup d'études en général sur la fréquence de la puberté précoce. En France, il y a une étude qui date d'il y a quelques années sur les enfants qui ont été traités pour une puberté. Donc, ça ne prend pas en considération tous les enfants qui n'ont pas été diagnostiqués.
On verra après, on ne les traite pas tous. Hein,
et qui ne sont pas traités. Et donc, on essaye avec justement l'AFPEL, qui est l'association des pédiatres endocrinologues libéraux, de faire un état des lieux de la puberté en France chez les enfants. Il y a déjà eu une pré-étude sur 2000 enfants qui montre qu'il y aurait près de 5% des filles de moins de 8 ans qui aurait un petit peu de développement mammaire.
Et vous nous avez confié en préparant cette émission que pendant la période de confinement, vous avez vu un petit peu plus, je ne sais pas comment on peut dire ça, un boom, un frémissement, je vous laisse choisir vos mots, justement concernant des petites filles qui commençaient à avoir des signes de puberté un peu précoce.
Alors il est vrai qu'on est plusieurs à s'être fait cette réflexion. Alors évidemment, ce n'est pas chiffré et ce n'est pas scientifiquement établi, mais on est plusieurs sans se concerter à cette réflexion qu'on avait été beaucoup sollicité au mois d'avril-mai, juin par des parents qui avaient constaté que leur petite fille avait un développement mammaire.
Ce serait quoi le stress qu'est-ce qui s'est passé pendant ce
confinement?
Alors
on ne sait pas bien. Alors est-ce que c'est parce que les parents ont plus observé leurs enfants aussi parce qu'ils étaient en permanence avec eux? Est-ce qu'il y a une part de prise de poids qui a été constatée quand même pendant le confinement pour tout le monde qui peut avoir fait des petites poussées hormonales? On a l'impression cependant que beaucoup de ces petites filles n'ont pas évolué en vraie puberté. Mais il y a eu une nette augmentation de la fréquence de poussée mammaire.
Alors, en dehors du confinement, de cette période compliquée, c'est quoi les causes qui peuvent expliquer cette augmentation des pubertés précoces?
Alors, ce n'est pas encore complètement clair. On voit en tout cas que ça a évolué au fil des millénaires. Au paléolithique, les règles étaient estimées entre 7 et 12 ans. Par exemple, au 19e siècle, c'était 17 ans en moyenne. Ah ouais. Et donc, actuellement, on est autour de 12 ans à peu près. Donc il y a des facteurs génétiques, il y a des familles à puberté tôt, et il y a très certainement des facteurs environnementaux avec les fameux perturbateurs endocriniens qui sont certainement en partie responsables de ça.
Et en dehors des perturbateurs endocriniens, on vous avait dit le fait d'avoir un peu de poids, mais est-ce que le surpoids en tant que tel peut déclencher une puberté ?
Il y a quand même un profil un peu type des enfants qui font des pubertés. C'est souvent des petites filles qui grandissent vite et tôt et qui ont tendance à prendre du poids. Il y a souvent une prise de poids concomitante du moment où les parents constatent la poussée de puberté. On sait qu'au niveau du tissu adipeux, il y a aussi une œstrogénisation. Donc oui, il peut y avoir un lien avec le surpoids.
Des enfants, plus d'enfants en surpoids, donc peut-être plus d'enfants aussi avec la puberté précoce. C'est quoi la petite fille, peut-être la plus jeune que vous ayez eu à traiter pour une puberté précoce?
La plus jeune, elle avait à peine 2 ans. Wow. Mais c'est exceptionnel.
Ah oui. Sinon, c'est...
En général, c'est autour de 6-8 ans.
Ah oui, quand même, hein, c'est tôt. Docteur Flechner, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Alors aujourd'hui, notre invité en studio, c'est le docteur Isabelle Flechner. Vous êtes pédiatre endocrinologue à Paris. Et avec vous, on fait un point sur la puberté précoce dans cette émission. Alors justement, comment ça se passe le diagnostic? D'ailleurs, on imagine que les parents confrontés à des signes de puberté chez une petite fille, je ne sais pas, de 6 ans, admettons, bah, ils vont courir chez vous et arriver complètement affolés, non? Vous les récupérez dans quel état, ces parents-là?
Alors oui, pour les parents, c'est une urgence. Pour nous, c'est une semi-urgence parce qu'il y a beaucoup de petites filles qui ont une poussée mammaire qui dure quelques semaines et qui redégonfle au bout de quelques semaines jusqu'à 2 à 3 mois.
Ça peut être ponctuel comme ça.
Voilà. Alors, on n'explique pas bien ces poussées-là. Souvent, d'ailleurs, quand on fait des dosages hormonaux, à ce moment-là, il n'y a pas d'activité hormonale. Mais du coup, moi, je ne donne pas de rendez-vous tout de suite. Je donne toujours un délai de 2 à 3 mois. Et il y a à peu près la moitié des enfants chez qui ça diminue. Et donc, du coup, à ce moment-là, tant que les seins dégonflent, c'est qu'il n'y a pas de puberté qui démarre.
Et justement, du côté des enfants, comment est-ce qu'ils prennent la chose? Parce qu'on comprend les parents affolés, mais est-ce qu'un enfant, lui, ça le stresse aussi?
Ça dépend, mais pas beaucoup au départ. Parce qu'en fait, les petites filles, souvent de 6 ans, elles sont assez fières en fait, d'avoir les seins qui poussent un petit peu, surtout si elles ont des grandes sœurs. Après, quand ça commence à se développer et à se voir, là, ça pose plus de problèmes.
D'accord. Et les petites filles, donc on l'a pas dit, mais c'est beaucoup plus fréquent que chez les petits garçons. Hein. C'est combien le ratio entre les deux?
On pense que c'est à peu près un garçon pour 10 filles.
D'accord. Il n'y a pas un impact psychologique quand même aussi qui peut être aussi un peu plus lourd après quand elles sont justement très. Parce que vous dites elles sont contentes au début, mais après, on peut aussi se moquer d'elles. Est-ce que finalement, c'est pas un peu lourd à porter aussi pour elles?
Si, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, le traitement, quand on bloque les pubertés, c'est à la fois pour la croissance, mais aussi pour le vécu.
Qu'elles soient comme des copines.
Voilà, du développement, des changements.
Et justement, s'il y a un parent qui nous écoute et qui a l'impression que son enfant a peut-être des signes de puberté précoce, qui est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il vient vous voir directement? Ou est-ce qu'il passe par son médecin traitant, le pédiatre, qui vous adressera pour faire une forme de filtre?
Voilà, alors le mieux, c'est quand même d'aller voir le médecin traitant ou le pédiatre pour vérifier qu'il y a bien une vraie glande mammaire en passant, en palpant et en sentant s'il y a bien cette petite boule-là. Et puis, effectivement, dans un second temps, il faut voir un pédiatre endocrinologue si c'est confirmé et si ça persiste plus de 2 mois.
Alors, les parents et l'enfant arrivent dans votre cabinet pour, il y a une poussée mammaire, il y a quelque chose qui fait penser à ça, ils veulent confirmer avec vous. D'abord, j'imagine qu'il y a l'examen clinique. Qu'est-ce que vous allez regarder chez l'enfant pour confirmer ou pas le diagnostic? Après, on parlera des examens éventuels en plus. plus, mais à la consultation, qu'est-ce que vous regardez?
Alors effectivement, le diagnostic, il est d'abord clinique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir s'il y a une petite poussée mammaire, donc bien palper. On regarde aussi la croissance, évidemment, puisque s'il y a une accélération de la croissance...
C'est un signe de puberté aussi.
Voilà, ouais. C'est assez rapide chez les filles, en fait, entre le moment où les seins poussent et la croissance. En quelques mois, la croissance va accélérer.
C'est des petites filles qui prennent quoi, 5 cm en quelques mois ou...
Pas tout à fait, un petit peu moins, mais qui se mettent à grandir plus vite. On voit un décroché, en fait, sur la courbe de croissance. C'est pour ça que c'est important d'avoir un historique des poids et des tailles, et les carnets de santé, c'est fondamental pour nous. Et puis, on regarde le poids aussi, bien sûr. Et puis, on recherche aussi, en interrogeant les parents, s'il n'y a pas eu de médicament particulier ou d'autres choses particulières. Et l'histoire familiale aussi de la puberté, s'il y a des pubertés précoces dans la famille.
Si la maman a été réglée à 9 ans, en général, par exemple, ça donne une indication pour la petite fille.
Ça, c'est très important.
Et justement, une fois qu'on a fait cet examen clinique, vous allez prescrire, je suppose, des examens complémentaires. Qu'est-ce qu'on fait? Une prise de sang, des examens d'imagerie, comment vous faites?
Alors, une fois qu'on confirme qu'il y a effectivement un développement mammaire qui persiste depuis 2-3 mois, on fait un dosage sanguin qui, en général, doit se faire en hôpital de jour parce que c'est un dosage sur plusieurs temps, parce que les hormones, c'est très fluctuant. Et donc, pour vraiment voir si elles sont actives, on a besoin de faire des dosages assez précis. Donc, c'est sur une matinée à l'hôpital ou dans des laboratoires en fonction des organisations.
Donc là, vous dosez les hormones féminines, là,
voilà,
c'est ça?
Voilà, on regarde les différentes hormones féminines et on voit s'il y a une activité hormonale. C'est très fiable, en fait, pour savoir s'il y a une activité des hormones ou si c'est une simple poussée mammaire qui ne va pas évoluer, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui n'évoluent pas. Et justement, ça nous permet de distinguer assez tôt dans l'apparition des signes si c'est une vraie puberté qui démarre ou si c'est juste une simple poussée, de savoir quels enfants doit prendre en charge et lesquels on peut juste surveiller.
Donc, un bilan sanguin, ça on l'a compris. Petite fille, petit garçon, j'imagine que ce n'est pas forcément le même. Mais on va regarder d'autres choses. Jimmy parlait d'imagerie, par exemple. Qu'est-ce que vous regardez d'autre?
Voilà, alors on va regarder la radio d'âge osseux. C'est une radio de la main et du poignet qui permet de voir où on en est des cartilages de croissance et pour voir justement s'il y a déjà une avance au niveau de la croissance qui pourrait expliquer que l'enfant grandit plus vite que son âge et que du coup, la puberté se met en route parce que le corps est en avance en fait, sur l'âge réel. C'est ce qu'on voit chez les filles actuellement. Elles grandissent de plus en plus vite et de plus en plus tôt. Et donc, elles atteignent une maturité corporelle plus âgées que leur âge. Et donc, du coup, leur puberté va se déclencher plus tôt parce qu'elles font déjà la taille de 8 ans à 6 ans et le poids aussi est en avance.
Et est-ce que la puberté précoce peut être révélatrice d'une maladie sous-jacente? Et donc, on va découvrir autre chose en observant cette puberté précoce?
Alors, c'est un faible pourcentage chez les filles, mais oui, on fait quand même des examens. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait une échographie de l'utérus et des ovaires pour regarder l'aspect des ovaires et voir s'il n'y a pas de kyste, par exemple. Et puis, on fait aussi une IRM cérébrale et de l'hypophyse, qui est la glande qui fabrique toutes les hormones, et pour vérifier que de ce côté-là, il n'y a pas d'anomalie particulière. En général, on ne trouve pas d'anomalie.
Parce que sinon, c'est quoi qu'on pourrait trouver? Une tumeur éventuellement?
On peut retrouver
ça,
des tumeurs qui peuvent favoriser les pubertés précoces. C'est quand même très rare chez les petites filles, on n'en trouve pas beaucoup. Chez les garçons, comme c'est beaucoup plus rare, la puberté précoce chez les garçons très jeunes. Par exemple, un garçon de 6 ans qui commence sa puberté, il y a quand même un fort risque qu'il y ait une pathologie dessous.
Tous ces examens dont on vient de parler, c'est pris en charge par l'assurance maladie?
C'est pris en charge par l'assurance maladie et avec une mutuelle, oui, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de reste à charge, a priori.
Normalement.
D'accord. Docteur Flechner, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est le docteur Isabelle Flechner. Je rappelle que vous êtes pédiatre endocrinologue à Paris et qu'on parle avec vous de puberté précoce cet après-midi. Alors, on vient de voir comment on pose le diagnostic de cette pathologie. D'ailleurs, je dis pathologie, mais oui, c'est une pathologie. Hein. On peut dire ça comme ça?
Oui, c'est une extension de la normale. Après, notre problème, c'est de savoir jusqu'où on va rajeunir l'âge normal de la puberté.
Alors justement, lorsque tout concorde, que c'est bien ça, vous avez fait tout le bilan, on voit que donc, cet enfant est en puberté précoce, on fait quoi? Est-ce que d'ailleurs on décide toujours de faire quelque chose?
Alors c'est pas obligatoire de traiter une puberté précoce puisque c'est pas un dysfonctionnement hormonal, c'est juste une précocité. Après, il faut mettre en place un traitement pour deux raisons. Pour la croissance, puisque quand on a une puberté plus tôt, on grandit beaucoup plus vite, mais on s'arrête beaucoup plus tôt. Et donc, il y a un impact sur la taille adulte.
Ce sera un enfant qui sera plus petit à terme, a priori.
Voilà, ouais. C'est un enfant qui est plus grand de la classe.
L'heure normale, quoi.
Voilà, c'est un enfant qui est le plus grand de la classe en primaire et qui finit de grandir à 10 ans et qui se fait dépasser par
peut-être
tout le monde.
C'est ça qui m'est arrivé, en fait. Hein, je me demande. Non, j'ai grandi tôt, mais pas longtemps.
Voilà, donc il y a la taille. Et puis, il y a l'impact psychologique aussi sur le fait réglé en CE2 ou en CM1. C'est quand même compliqué à gérer. C'est pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a certaines familles qui ne souhaitent pas le traitement et que ce n'est pas obligatoire, mais il faut assumer la gestion après de tous ces changements qui arrivent chez les enfants.
Et du coup, justement, comment est-ce qu'on bloque cette puberté précoce avec des médicaments? Mais du coup, lesquels?
Alors, c'est un médicament qui est un équivalent hormonal, qui n'a rien à voir avec l'hormone de croissance, qui se donne par injection intramusculaire tous les 2 mois et demi à peu près. C'est un traitement qui est fait par une infirmière près de la maison, qui se prend à la pharmacie à côté de chez soi. Et le traitement dure le temps qu'on arrive à un âge dit normal pour la puberté.
Il fait quoi dans le corps, ce traitement? Concrètement, c'est une injection. Donc, une hormone, vous avez dit, mais
alors,
non.
C'est un équivalent d'hormone synthétique et en fait, qui va prendre la place d'une des hormones de la puberté et bloquer la cascade d'hormonal qui normalement a lieu pour faire un peu barrage en fait, comme sur une rivière, ça fait barrage et ça empêche tout le système d'hormones de continuer à faire des effets. Par contre, la puberté, elle est toujours active à l'intérieur.
Ah
donc
oui.
En fait, c'est pour ça qu'on est obligé de donner des injections à intervalles très réguliers pour que les hormones soient bloquées tout le temps que l'on souhaite. Et quand on estime que c'est le temps que ça y est, l'enfant atteint un âge et une taille normale, eh bien, on arrête le traitement et les hormones repartent là où elles en étaient.
Donc vous avez dit, c'est un médicament, un traitement qui va bloquer la cascade déclenchant la puberté, mais est-ce qu'à l'inverse, ça ne va pas avoir des effets secondaires qu'on va devoir surveiller?
Les parents doivent vous poser la question quand même. On a toujours
évidemment
peur de donner des traitements comme ça par injection en plus à des petits-enfants.
Alors, l'effet secondaire principal, c'est que ça augmente l'appétit souvent chez des enfants qui ont déjà souvent un petit surpoids et une tendance à avoir un très bon appétit. Donc, il faut faire attention à ça. Après, c'est un médicament qui est très bien toléré. Il n'y a pas d'effet particulier, surtout que les enfants n'ont pas eu le temps de s'habituer à leurs hormones. Donc, ils ne ressentent pas du tout la privation d'hormones comme un adulte, par exemple. À notre connaissance aujourd'hui, les études à long terme montrent qu'il n'y a pas d'effet sur la fertilité.
C'est pas un traitement qui existe
après.
Depuis 2 ans. Ça fait longtemps. Vous
c'est
ça,
un vieux médicament qui a plusieurs dizaines d'années. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont même passé maintenant l'âge d'être maman qui ont eu ce traitement quand elles étaient petites.
Alors, vous disiez, c'est des piqûres qu'on fait tous les 3 mois, à peu près.
À peu près.
Avant, c'était plus près. Hein. Je crois que c'était tous les mois. Maintenant,
voilà.
On écarte un petit peu les injections. Quel est le suivi de ces enfants quand ils sont sous ce traitement? Vous devez du coup les voir hyper régulièrement ou pas forcément? Comment ça
se
passe?
Non, le suivi n'est pas très lourd. En général, on les voit 2 fois par an pour vérifier le poids, la taille, vérifier que le traitement est bien efficace, que la chronologie des injections est bien faite, qu'il n'y a pas de reprise d'hormones. Et quand on arrête le traitement, il n'y a pas en général de prise de sang ni de suivi. Enfin, on continue à suivre pour vérifier que la puberté reprend. On fait éventuellement un âge osseux à peu près 1 fois par an pour voir un peu quand même comment évolue la croissance.
Et est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'au bout de, je sais pas, 3 injections, vous commencez à avoir des effets sur la croissance ou même plutôt sur les signes cliniques avec des seins qui vont redevenir de taille normale, une pilosité qui va s'améliorer? Ou ça prend un petit peu plus de temps?
Alors, ça n'a pas d'effet sur la pilosité ou l'acné ou peu, puisque ça, c'est d'autres hormones
qui
ne sont
pas...
Donc,
si des poils sont sortis, les poils resteront.
Voilà.
Les
poils et l'acné sont liés à d'autres hormones qui ne sont pas bloquées par le traitement. Par contre, au niveau des seins, en général, ça redégonfle. Alors, plus ou moins en fonction du stade où était l'enfant quand on a mis en route le traitement.
Pour les testicules des petits garçons aussi, ça
Ça reste stable, oui, ça diminue un tout petit peu, ça reste stable. Et ça, c'est des effets qu'on voit au bout de 2-3 mois. Et donc après, si le traitement est bien fait, normalement, ça ne bouge plus jusqu'au moment où on décide d'arrêter le traitement.
D'accord. Donc, dès qu'on fait la première injection, en gros, avant même la suivante, on a déjà des résultats. Hein, c'est ça,
oui,
c'est assez
absolument.
Rapide quand même.
La croissance, elle, par contre, elle est un peu en décalé. Souvent, les 6 premiers mois de traitement, il y a encore une croissance assez rapide, le temps que le corps s'habitue à l'absence d'hormones. Et puis après, ça reprend un rythme régulier.
D'accord.
Et est-ce que c'est des traitements qui coûtent cher? Je suppose que c'est pris en charge par l'assurance maladie aussi?
C'est des traitements qui coûtent assez cher, mais qui sont pris en charge entièrement par la Sécurité sociale et la Mutuelle. Et éventuellement, on peut faire des demandes de prise en charge à 100% par la Sécurité sociale.
D'accord. Une fois qu'on arrête les piqûres, vous décidez de les arrêter. Alors, d'ailleurs, vous disiez combien de temps dure le traitement? Ça dépend, parce que vous parliez d'une petite fille tout à l'heure qui a commencé à 2 ans. Ça va durer du coup des années avant d'atteindre l'âge où c'est acceptable qu'elle ait une puberté. Ça peut durer jusqu'à combien au maximum, ce genre de traitement?
Ça peut durer jusqu'à 8 ans, par exemple, pour cette petite fille.
8 ans de durée entière de traitement.
Voilà, ça dépend de l'âge de début. En général, vu l'âge des enfants moyens qui est autour de 7-8 ans, en général, c'est de l'ordre de 2 à 3 ans.
C'est ça, en moyenne, c'est ce que vous faites.
Et ces enfants qui ont des pubertés précoces, est-ce qu'on leur trouve d'autres pathologies liées aux hormones? Est-ce qu'on peut imaginer que la thyroïde fonctionne un peu moins bien, des problèmes au niveau d'autres glandes comme des surrénales, plus de diabète, des choses qui vont avec justement cette puberté précoce, ou c'est un truc juste isolé, vous traitez et on passe à autre chose?
On peut trouver parfois des histoires des surrénales, puisque c'est des hormones un peu de la même famille qui peuvent justement...
Les surrénales, c'est quoi? Vous pouvez nous
préciser? Alors, les surrénales, c'est des glandes qui sont communes chez les filles et les garçons et qui fabriquent tout un tas d'hormones contre le stress, etc. Et en particulier, les hormones qui donnent les poils, les boutons, etc. Et donc, parfois, il y a des enfants qui ont des hormones des surrénales plus fortes que la moyenne et du coup, ça peut favoriser les pubertés précoces. Après, sur les autres, la thyroïde, le diabète, l'hormone de croissance, non, il n'y a pas particulièrement d'association. à terme, parfois quand même, les enfants qui ont eu des pubertés précoces ont parfois plus de syndrome des ovaires polykystiques avec une sensibilité accrue aux hormones.
Donc ça, c'est pour les jeunes filles,
voilà,
en tout
ça,
cas.
C'est pour les jeunes
vous
filles,
demandez, est-ce que le fait d'avoir eu une puberté précoce, effectivement, ça va induire, va avoir des conséquences pour leur vie de femme future, la fertilité, l'âge de la ménopause, qu'est-ce qu'on note aujourd'hui?
A priori, non, pas particulièrement, sauf celles qui ont éventuellement un syndrome des ovaires polykystiques. Alors, on peut avoir aussi un syndrome des ovaires polykystiques sans puberté précoce, mais parfois, c'est un terrain un peu favorisant. Mais sinon, non, il n'y a pas de dysfonctionnement particulier.
Un petit mot de prévention, justement, comment est-ce qu'on pourrait faire dans le quotidien pour éviter cette puberté précoce? Je crois que vous êtes en lutte contre les poux, ou plutôt contre les traitements contre
alors là,
les
on
ne
voit pas le lien pour l'instant.
Exactement.
Entre les poux et la puberté, mais
et
elle va
autre
nous expliquer.
Chose avec une fleur,
elle
une
aime
plante.
Pas la lavande, elle
exactement.
Va nous expliquer pourquoi.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà. Alors, effectivement, là, c'est devenu la mode d'utiliser les huiles essentielles à base de lavande et de titri, d'arbre à thé, là, pour lutter contre les poux.
Nos auditeurs se demandent encore où vous voulez en venir, hein, mais allez-y.
Voilà, et donc, du coup, on a constaté que la lavande et le titri pouvaient entraîner des poussées mammaires chez les petites filles. Alors, c'est pas fréquent, c'est un faible pourcentage, mais comme c'est utilisé beaucoup, on a authentiquement des enfants qui ont fait des poussées mammaires. Alors, ce n'est pas des vraies pubertés précoces, mais est-ce qu'à terme, ça ne peut pas avoir un effet plus prolongé? Des poussées mammaires après chaque shampoing anti-poux à la lavande. Donc,
mais en plus, ça ne marche pas de toute façon.
Voilà,
je suis une spécialiste des poux, des traitements contre les poux. Ça ne marche pas à la lavande.
Voilà, donc on déconseille fortement l'utilisation des huiles essentielles tous les jours ou même en shampoing, exceptionnellement à la lavande et de titri pour les enfants.
Un dernier mot, cannabis aussi, ce n'est pas terrible non plus chez les petits garçons?
Alors, le cannabis.
Chez même les grands garçons, ouais. Vous allez voir, Jimmy.
Le cannabis.
Ça peut vous faire un petit effet sympa, vous allez écouter.
C'est le même principe en fait que la lavande, c'est qu'il y a des phytoestrogènes qui ressemblent aux œstrogènes et qui peuvent se fixer sur la glande mammaire et donner des poussées mammaires chez les garçons, parce que chez les femmes
hors
adultes,
puberté,
on le voit
là,
moins.
À 17
puberté,
ans, on peut se retrouver oui. Avec des seins. Donc c'est une bonne raison de jamais fumer le cannabis, voilà. Hein, Jimmy, je crois.
J'ai déjà convaincu, moi.
Voilà, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais c'est un bon message de prévention, je crois. Merci beaucoup, docteur Fleschner, d'avoir accepté de répondre à nos questions cet après-midi. Je vous souhaite à vous une belle fin d'après-midi. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner et de vous faire du bien. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur le lichen plant. Tiens, d'ailleurs, savez-vous ce que c'est précisément? Je vous aide, c'est un problème dermatologique, mais justement, comment ça se manifeste sur la peau? Comment ça se soigne également? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Le lichen plant? Je ne sais pas si c'est un rapport avec le lichen qui se trouve sur les arbres.
Jamais entendu parler. Ça ne me dit rien du tout.
C'est quelque chose de végétal qui pousse sur les arbres, qui pousse à même le sol.
C'est une maladie peau, le lichen plant. D'accord, lichen plant. Ça vient, c'est quoi, c'est hollandais?
Bah, ça doit être une maladie de peau, type champignon.
J'imagine que ça doit faire des boursouflures, des petites crevasses, des petites cornes. Croûte, ça doit pas être beau.
Quand j'entends lichen plant, ça a l'air agressif. Donc je crois que c'est hyper corrosif. Hein. Ça fait très cratère, très poussée cutanée, un petit peu difficile visuellement et même douloureuse. Je pense.
Comme c'est plutôt de l'humidité et du froid, ça doit souvent arriver donc l'hiver.
Alors Jimmy, reprenons le lichen plant, Kesako s'il vous plaît, c'est quelque chose de fréquent ou pas?
Alors c'est une maladie dermatologique, vous l'avez compris, elle est inflammatoire et elle est chronique. Elle évolue souvent par poussée, elle touche la peau essentiellement, mais aussi d'autres régions, on le verra, les muqueuses et notamment la muqueuse aussi génitale. Elle est rare chez l'enfant, je tiens à vous rassurer, elle touche en général les adultes après 40 ans, mais ça peut débuter aux alentours de 30 ans. Ça touche 1 à 3% de la population, donc ce n'est pas si rare que ça, ouais. Mais c'est une maladie bénigne, rassurez-vous.
Alors à quoi ça ressemble? Quel type de lésions on peut voir apparaître alors sur la peau ou les muqueuses? Vous l'avez dit, ce n'est pas que cutané, mais ça ressemble
alors,
à quoi?
Vous allez avoir des boutons, donc des plaques.
Lichen, ça fait penser à de la mousse hein, dans la nature.
Il y a une idée en fait justement, c'est des plaques rouges ou violacées avec des petites stries blanchâtres qui vont faire rappeler le lichen végétal et qui vont être disposées souvent au niveau de zones particulières comme les poignets, les chevilles, les avant-bras, dans le dos. Et ça peut toucher l'intégralité du corps. Et surtout, il y a une particularité, c'est que ça gratte. Mmh. Ça gratte assez intensément et ça va entraîner des lésions supplémentaires, notamment au niveau des petites stries. Et ces lésions vont être ovales ou rondes avec un contour qui va être un peu irrégulier.
D'accord. Et c'est quoi la cause de cette maladie? Les origines du lichen plant, on les connaît?
Eh ben on ne sait pas, non. Pourquoi est-ce qu'on fait du lichen plant?
Pourquoi vous avez fait venir? Vous ne savez rien.
Est inconnue. Mais oui. Mais en fait, c'est une maladie, elle évolue par poussée et elle est dominée par des facteurs.
Il y a beaucoup de maladies sur lesquelles on a encore des mystères à définir.
Vous rattrapez bien en branche, Mélanie.
C'est pas vous.
Elle évolue par poussée, elle est déclenchée parfois par des émotions, par du stress. On sait que ce serait peut-être lié à une pathologie auto-immune, il y aurait peut-être une cause virale. On sait que le virus de l'hépatite C pourrait être un facteur déclenchant. Et chez ces personnes, parfois, on observe aussi un diabète ou une maladie des surrénales qu'on appelle la maladie d'Addison ou la pelade qui consiste à perdre ses cheveux. Donc, il y a un terrain auto-immun, même si, encore une fois, on n'a pas la cause de retrouver.
D'accord. Alors, évidemment, face à tous les signes que vous avez décrits, donc ces plaques au niveau des chevilles, des poignets qui sont rouges, qui grattent, si on a ça, évidemment, on consulte un dermatologue, mais il va traiter ça comment ?
Alors, dans 65% des cas, ça régresse spontanément,
tout seul,
en
d'accord.
un an, sans qu'on fasse strictement rien. On va vous donner des soins locaux avec des crèmes, et surtout, ce qui va invalider les gens, c'est le lichen avec une atteinte génitale, puisque ça va gratter, ça va picoter, ça va être douloureux, ça va entraîner des douleurs au niveau des rapports sexuels, et donc on va traiter systématiquement avec des corticoïdes. Même chose si vous avez ces lésions dans la bouche, car à ce moment-là, il va y avoir une érosion, être douloureux, l'alimentation sera difficile. Et donc, on vous propose souvent des corticoïdes pour faire des bains de bouche notamment. Et puis, on a d'autres traitements. Donc, si jamais vous avez ces petits boutons qui
pas
vous inquiètent,
pas hésiter à consulter.
Exactement, on aura quelque chose à vous proposer.
Très bien. Toujours des solutions avec le docteur Jimmy Mohamed. Merci pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question qui nous a été laissée sur notre répondeur par Esther. On l'écoute.
Bonjour Catherine. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un garçon qui est très charmant. On s'est vu plusieurs fois. Il me plaît beaucoup. Par contre, j'ai le sentiment qu'il est radin. Or, moi, je suis très dépensière. Donc, ça m'inquiète un peu pour la suite. J'ai peur que ça colle plus et que ça cause des problèmes entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci.
Alors, c'est sûr, Catherine, que si on est économe et que l'autre est dépensier, ça n'annonce rien de bon pour la suite. Ce n'est pas les bases parfaites au départ, en tout cas.
Ah, ça risque d'être rock'n'roll, ça, c'est sûr. Maintenant, je crois que c'est au-delà de la gestion du budget. Hein.
Ils n'en sont peut-être pas là, en plus, encore.
Exactement. Hein, bon. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est cette notion de radin par radin. On pourrait se dire, après tout, l'autre fait ce qu'il veut avec son argent et on fait ce qu'on veut avec le sien, si tant est qu'on ait deux comptes et deux possibilités d'être productif. Sauf que c'est bien au-delà de la notion financière. C'est ce que l'autre est capable de donner. Parce que les gens qui ne donnent pas d'argent sont souvent aussi radins par ailleurs, d'attention, de disponibilité, d'extravagance. Ils sont plutôt
quand
dans la
donne
maîtrise.
Pas, on donne rien. Quoi,
ben, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans la maîtrise des choses et qui ont besoin de sécurité. Et donc, cette maîtrise, certainement qu'elle se voit dans d'autres aspects. Donc, souvent, le radin attend beaucoup et
il
donne
pas
peu,
de sa carte bancaire, mais il donne pas de câlin non plus. Quoi.
Ou il attend beaucoup qu'il lui soit donné. il a besoin d'être pris en charge plus qu'il ne va oser prendre en charge. Et il manque de cette légèreté d'accepter qu'il y ait des choses qui échappent un peu, comme de l'argent qui part et qui reviendra, mais qui part. Et donc, certainement que c'est dans ces façons d'aimer qu'il est aussi radin.
Mais du coup, est-ce que c'est un trait de personnalité d'être radin ? Ça veut dire que ça ne s'améliore pas forcément avec l'âge et qu'on ne pourra pas demander au radin de faire des efforts et donc on est contraint de vivre avec ça dans cette relation ? Encore faut-il l'accepter ?
Alors, où on sait qu'on l'a, il faut l'accepter, effectivement, parce qu'il est comme ça, et donc on sait compenser, ou on sait le rassurer, etc. Et puis peut-être que ça nous arrange parce qu'on est radin soi-même, donc finalement, il est très sécurisant. Ou alors, effectivement, il va falloir l'aider à assouplir ce trait-là si on veut pouvoir vivre avec ce quelqu'un. On est tous capables d'évolution, on ne change pas diamétralement, mais on est tous capables d'évolution, d'ouvrir le champ de nos possibles. Donc, dans l'amour, on apprend aussi à ne pas avoir peur, il faut comprendre pourquoi, d'où vient ce radinisme. Est-ce que c'est une éducation à l'argent reçue par les parents ? Est-ce que c'est un manque d'amour reçu également et un besoin de se sécuriser soi-même ? Enfin, tout ça est à mettre un peu au clair pour pouvoir voir dans quelle mesure ça peut être un peu plus largement considéré.
Vous dites des choses à mettre au point. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut aborder dans un début de relation ? Elle dit qu'ils sont ensemble depuis, ils se sont rencontrés il y a quelques semaines, donc ça a l'air tout neuf, tout beau. C'est quand même une période délicate de dire à quelqu'un en début de relation, dis donc, j'ai l'impression que tu as une petite pince. Enfin bon, je ne sais pas comment on amène la chose. Est-ce que c'est important de l'aborder tout de suite, quoi ?
C'est très délicat parce que souvent, les femmes d'abord n'osent pas l'aborder tout simplement parce que leur est fait un mauvais procès qui est que les femmes sont vénales. Et que donc, dans la mesure où elles sont vénales, si je commence à parler du radinisme de la personne que j'ai en face de moi...
Je cherche à en profiter, j'aimerais profiter de ton argent.
Et j'ai peur que l'on pense que ce soit un profit. Or, mettons-nous très à l'aise sur le sujet, bien évidemment que les femmes cherchent à profiter de leur homme, mais pas à profiter financièrement.
Soyons à l'aise, Jimmy.
Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des relations. Ouais. Nous profitons tous l'un de l'autre.
Voilà.
Du corps de l'autre, de la générosité de l'autre, de la jouissance
dire,
de l'autre. Voilà, bien sûr.
C'est pas que les femmes, on est d'accord.
Mais bien évidemment, et de la jouissance que nous apporte l'autre. Et pourquoi l'argent ne participe pas aussi de nos élans de jouissance dans la relation. Donc, simplement, ça, on brusque le sujet comme si on devait absolument
Les femmes ont l'injonction de jouir sexuellement, mais elles ne peuvent pas jouir dans la vie en général, sinon ce sont des garces. Parce que ce sont les garces qui se font payer. Donc il y a vraiment un malentendu, un procès d'intention fait, qui nécessite évidemment que chacun puisse s'exprimer très tranquillement sur le sujet pour que hommes et femmes soient en paix sur ce sujet et puissent vivre sereinement dans cet échange, notamment matériel.
Vous l'avez dit, la radinerie va au-delà du concept financier, mais est-ce que ça veut dire que dans la vie de tous les jours, un radin ne voudra pas aller en voyage, ne voudra pas s'installer dans un nouvel appartement parce que ça va coûter de l'argent et donc va altérer la relation et que c'est au-delà du « il ne veut pas me payer des fleurs » ou « il ne veut pas aller au restaurant ».
Il ne veut pas m'inviter au resto, il partage la note.
C'est ça, mais vous avez effectivement jusque-là, c'est-à-dire on va plutôt acheter, on mangera dans la chambre d'hôtel, d'ailleurs plutôt que la chambre d'hôtel si on se prenait un camping, ce qui va très bien si on est aventurier, qu'on adore le camping, qu'on adore se faire une petite tambouille à deux, bien évidemment. Mais si tel n'est pas complètement le goût partagé, il va falloir quand même que l'on puisse se dire les choses, parce que ça peut effectivement resserrer les choses, ne plus inviter des gens parce que ça coûte cher, ne pas recevoir la famille parce que ça coûte cher, ne pas faire de
ça peut être incompatible avec son mode de vie à elle, effectivement.
Voilà. Et donc, du coup, même si l'autre est l'autre, il faut pouvoir vivre en société sans avoir honte de la personne avec qui l'on vit et sans avoir le sentiment que l'autre est toujours la source de notre frustration.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils toujours précieux. Merci. Merci de nous avoir suivis, vous aussi. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie.
Bonjour, Mélanie.
22, Vladé Flic. Ouais, avec Stéphane, on a peur. On a peur. On dirait Casper, le fantôme.
Des grands, on réunit aujourd'hui trois grands policiers.
Immense,
quand même.
Immense.
Alphonse Bertillon, c'est le père de la police scientifique.
Et non pas de la crème glacée.
Et de l'identité judiciaire. Roger Borniche, qui est mort à 101 ans l'été dernier. Eh bien voilà, on va parler de lui. Puis on a un invité exceptionnel.
Olivier Marchal, lui-même flic, devenu acteur,
ça, c'est
puis
promesse,
cinéaste.
Hein.
Comment ça, c'est une promesse?
Bah oui,
c'est... Ah oui, c'est une promesse d'émission, oui, tout à fait.
C'est la promesse d'une bonne émission, et puis c'est aussi le titre de la série qui est sur TF1.
Non, mais là, en fait, Stéphane, vous avez été tellement fort pour faire la transition et la promo de l'invité.
Je peux rien à dire, moi.
Je dis chapeau, tout simplement, bravo. Bravo, Stéphane.
Il n'y a qu'une seule chose à faire, hein, je pense,
c'est nous écouter.
Rester sur Europe 1.
On va bien rire.